je vous propose de commencer. Donc cet après-midi, dans le cadre de notre festival, donc surveiller fichiers pénalisés, on va aborder à présent les résistances et les détournements. Tout d'abord avec une intervention à deux voix au sujet des résistances des professionnels à la fois de la psychiatrie et puis de la justice et du droit. Donc je vais laisser la parole alors à Pascal Boissel qui nous présentera deux pétitions, Pas de zéro de conduite et l'appel des appels. Donc Pascal Boissel est psychiatre, psychanalyste. Et ensuite je donnerai la parole à Simone Brunet qui est avocate et militante du syndicat des avocats de France et qui nous parlera de l'extension du domaine du contrat et la destruction de la norme. Donc voilà, je vous laisse un quart d'heure, 20 minutes chacun, et après on fera un débat avec la salle.
Donc à l'origine, le titre, c'était autour de l'appel des appels. Donc j'avais contacté Roland Gory, qui est le porte-parole de l'appel des appels, qui avait dit oui, d'accord, et puis deux mois après, il a dit qu'il avait autre chose à faire, d'où son absence. Et puis, de toute façon, entre-temps, il y a eu des choses qui ont évolué, c'est que l'appel des appels... en dehors de Roland Gory, n'a pas vraiment d'existence qui se développe. Et puis d'autre part, il y a la question. Disons qu'il y a deux grands axes, enfin, il me semble en tout cas, à l'intérieur de l'appel des appels, dont on ne peut pas faire une synthèse sans forcer les choses. C'est tout ce qui est du domaine psy et de la petite enfance, d'une part, et du domaine du droit et du juridique, d'autre part. Bon. Alors, dans le domaine des psychiatres, il y avait une chose qui avait beaucoup changé. C'était, il y a eu un discours prononcé par Sarkozy en décembre 2008 à l'hôpital d'Antony. Peut-être mieux que je donne tout de suite que je dise tout de suite ce qu'il avait dit, parce que ça paraît un peu incroyable quelquefois après. Donc, M. Sarkozy, c'était un discours annoncé, organisé devant des professionnels de la profession, triés sur le volet. Et il avait... quelques phrases. Il a dit « Il n'y a aucune raison de cacher votre métier. Bon, » ce qui est une manière assez aimable de dire qu'on fait un métier pourri. Ensuite, il a dit « On doit parler de vos établissements autrement qu'à l'occasion des faits divers qui mettent en cause des patients qui vous sont confiés. » Bon, et ensuite, il a parlé que de faits divers. Et donc c'était, vous avez peut-être oublié, mais il y avait un fait divers mettant en cause une personne qui avait eu des problèmes psychiatriques, qui avait tué quelqu'un. Ces faits divers, il avait tenu à préciser, ne mettent nullement en cause votre compétence. Et ensuite, il avait dit, mon propos n'est pas de dire que la seule solution est l'enfermement, encore moins l'enfermement à vie. Donc on appelle ça une dénégation. Et il avait dit, avec une grande gentillesse, le schizophrène qui est avant tout une personne malade. Et puis qu'il avait donc parlé de ce qui est dans sa conception personnelle de la psychiatrie et de la normalité, uniquement de ce qu'il appelait des schizophrènes, en précisant qu'il y a des patients qui peuvent soudainement redevenir dangereux. Donc il y avait la question il y avait une cible qui a été proposée par le président de la République à ce moment-là, c'est des schizophrènes dits dangereux. Et après, comme c'est un garçon assez pragmatique, il avait dit comment il fallait faire. Donc, c'était des hospitalisations d'office, en veux-tu, en voilà. Il ne critiquait pas les psychiatres, mais enfin, il fallait quand même que les sorties d'essai soient un peu moins le bordel et que ce soit le préfet qui décide, ce qui arrive actuellement. Donc, c'est le préfet qui va à l'encontre maintenant d'avis médicaux disant qu'une personne bénéficie... aurait tout lieu pour sa santé de bénéficier de sortie d'essai. Le préfet dit non et n'a pas à justifier. Ce qui est une atteinte aux libertés assez poussée. Bon, il avait surtout dit ça. Il avait dit... Donc après, oui. Et puis alors, comme il s'agit toujours de parler d'argent, il avait dit pour ceux qui comprenaient, qui auraient pu penser qu'ils allaient passer entre les gouttes, qu'il y avait de l'argent à distribuer et que ça serait en fonction des résultats, que donc il donnait les consignes et que les directeurs d'hôpitaux qui auraient des bons résultats auraient de l'argent, les autres que dalle. Donc le résultat, c'est que les directeurs d'hôpitaux ont construit à Angoulême, par exemple, j'ai appris récemment, j'aurais pu me tenir au courant avant, un ami qui travaille, ils ont construit un grillage tout autour qui n'existait pas. Tout autour de l'hôpital psychiatrique d'Angoulême, qui était normalement novateur en tant que système ouvert. Par ailleurs, ça va pas dans le sens de ce que je raconte. C'est ridicule. Mais... Alors que M. Sarkozy a dit... Déjà, je n'ai pas assez préparé. On n'a pas besoin de changer de trottoir quand on passe à côté d'un hôpital psychiatrique. C'est M. Sarkozy qui est président de la République élu au suffrage universel par 43%. 53%. Face à une candidate socialiste exceptionnellement douée. Alors, je comprends parfaitement que le malade est une personne humaine, il a dit aussi. Voilà, il a dit tout ça. Alors, à la suite de ça, en face, les gens étaient assez tétanisés, donc il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Après, il y en a qui ont dit, oh oui, mais il y a le pour et le contre, c'est pas un mauvais garçon au fond. Donc, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui disent, on va aller négocier. Mais négocier avec quelqu'un qui dit, je vais vous en foutre plein la tête, et puis... C'est comme difficile de trouver une quelconque dialectique dans ce texte. Et puis, donc, il y a eu un appel qui s'appelait la nuit sécuritaire qui a dénoncé ça. Donc, qui disait très clairement, donc un appel qui a eu beaucoup d'écho dans les milieux psychiatriques, hospitaliers, non hospitaliers, qui disait, dans ce discours, les fondements même de la psychiatrie ont été attaqués avec la plus grande brutalité. Il aura suffi d'un fait divers dramatique pour relancer une politique de la peur dont le projet de centre de rétention de sûreté, tout comme... les soins sont consentement en ambulatoire, sont le parachèvement. Et alors, il disait, dans cette pétition, la nuit sécuritaire, « Nous, soignants en psychiatrie, n'acceptons pas que la plus haute autorité de l'État répande de tels propos qui laisseraient croire que les personnes atteintes de troubles psychiques font bien plus souffrir la société que celle-ci ne les aliène. Nous n'acceptons pas non plus que ces citoyens soient jetés en pâture à la vindicte populaire pour maintenir de manière forcenée, irresponsable, le ferment de la peur. » Donc la question qui était posée, c'était, devant tant de dangerosité construite, la psychiatrie se verrait-elle expropriée de sa fonction soignante pour devenir la gardienne de l'ordre social? La réponse étant oui. Nous refusons de voir la question des soins psychiques réduite à un pur contrôle sécuritaire criminalisant outrageusement la maladie mentale. Nous refusons d'être instrumentalisés dans une logique de surveillance et de séquestration. Et donc il faisait référence à d'autres actions qui avaient commencé auparavant, notamment autour d'une pétition qui s'appelait Sauvons la clinique, qui s'inquiétait de la disparition de la référence notamment à la psychanalyse dans les facs de psycho, ça a été dit hier, et encore plus dans l'enseignement des psychiatres, vers une formation qui est censée être plus pragmatique et plus efficace, donc à coup de médicaments et de thérapie brève. Et une référence à la pétition Pas de zéro de conduite. Voilà. Alors, à la suite de ça, donc il y avait eu tout un tas de pétitions qui avaient eu lieu dans différents domaines avec donc c'était l'époque où il y avait une réforme par semaine mise en chantier par Sarkozy et son équipe. Donc il y avait des pétitions, pétitions, pétitions. Et donc il y a des personnes dont Roland Gori et Stéphane Chédry qui a dit « Ah, bon, ce qu'on va faire, c'est un appel des appels. On va faire un appel pour dire qu'il faut regrouper des appels et on va s'adresser, on va essayer de faire un truc qui va être nouveau. » Alors l'idée, c'était de rassembler les professionnels du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice, de l'information, de la culture contre les réformes en cours. Réformes qui étaient qualifiées comme remettant en cause la nature de ces professions. Donc il y avait une référence aux pétitions qui avaient précédé dans ces différents domaines, notamment Sauvons la recherche, Sauvons l'université, Sauvons la clinique, Sauvons l'hôpital, et donc la nuit sécuritaire dont je viens de vous parler. Après, une des difficultés qu'il y avait par rapport à ça, c'est, donc il y a eu un livre que j'ai oublié dans ma voiture qui s'appelle L'appel des appels, avec un certain nombre d'articles autour de ça qui sont intéressants, mais où un certain nombre de gens expliquent que l'importance de cet appel, c'est, alors c'est pas syndical, c'est pas politique, et c'est ailleurs et c'est mieux. La question, c'est comment c'est mieux. C'est mieux. Le seul porte-parole que j'entends parler à France Culture, assez souvent, c'est Roland Gory, qui commence par parler de l'appel des appels, et après qui parle de lui, puis après qui parle de la vision du monde de Roland Gory, qui n'est pas sans intérêt, mais ça reste quand même celle de Roland Gory. Ce qui est gênant comme porte-parole, mais c'est une conception du porte-parole qui se répand, c'est de parler en son nom propre, en disant qu'on parle au nom des autres. Mais ça rend les choses un peu compliquées. Alors, ils avaient essayé de théoriser ça en disant qu'il y avait une centralité des professions intermédiaires dans la construction d'un espace collectif et citoyen. Bon, évidemment, c'est assez flatteur si on est au centre de la société. Mais bon, donc, oui, alors l'idée était que donc, les professionnels du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice, de la formation, de la culture, voilà, ils se rassemblent, et puis qu'il y ait des citoyens qui viennent autour, et puis qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit produit par ça. Question étant comment ? Alors, bon, alors, pour le domaine de la recherche, je sais plus, je crois que c'était Isabelle Saint-Yves qui avait fait l'article. Elle faisait remarquer qu'elle disait que les réformes s'inscrivent dans une dérive idéologique profonde qui fait que le savoir et la connaissance ne sont plus considérés comme des valeurs en soi. Dans le livre, il y a Dardot, donc celui qui a participé à la rédaction du livre La nouvelle raison du monde avec Laval. Bon, qui fait des références, comme presque tout le monde ici, si j'ai bien compris, à Michel Foucault, et qui dit « Le néolibéralisme, à la différence du libéralisme classique, fait de l'intervention du gouvernement le levier de la transformation de toute la société. » Donc, l'idée qu'il y aurait toujours moins d'État avec les libéraux est battue en brèche dans ce qu'il essaie d'expliquer en disant qu'il y a beaucoup d'États, mais un État stratège et un État qui hésite, et où la démocratie est une forme assez n'est pas au centre de la réflexion des néolibéraux, voire on peut l'enlever, vu qu'un des exemples de succès des néolibéraux dont on ne parle pas beaucoup, ça a été quand même le régime du général Pinochet, qui a permis un développement économique important du Chili, tout au moins les classes supérieures, et 3000 morts. Donc il souligne qu'il s'agit dans cette logique-là, il s'agit d'étendre la logique du marché à toute la société. Donc l'idée qu'ils disent dans leur livre qu'il y aurait un nouveau sujet produit par la société néolibérale. Alors, dans le domaine de la psychiatrie, en fait, la pétition qui a eu un grand succès et qui avait eu grande efficacité, enfin, qui a une efficacité assez importante dans la mobilisation et qui a eu un caractère réellement collectif, c'était la pétition « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans ». Donc, il y avait été, qui en fait une sorte de modèle de ce qui a pu se passer. Donc, il y avait eu un rapport de l'INSERM qui était publié fin 2005, où il y avait un certain nombre de personnes, dont des professeurs de psychiatrie d'enfants et de l'adolescent, qui disait qu'il était très important de noter les manifestations d'opposition, de désobéissance, d'hyperactivité des enfants, d'agression physique, voir s'ils n'étaient pas polis, tout ça. Et qu'il s'agissait, l'idée étant de dépister les troubles du comportement, parce que les données de la science et de la statistique telles qu'ils les lisaient, disaient qu'il y avait un caractère prédictif chez un gamin de 3 ans qui a ce qu'ils appellent les troubles du comportement. Donc il reste à définir qu'est-ce que c'est que le comportement normal à 3 ans, à caractère prédictif pour dire que ça va être des délinquants. Alors ça aurait pu être un rapport, donc c'est l'INSERM, enfin, moi pour ma part, je n'avais pas pensé critiquer l'INSERM auparavant, ça me paraissait un argument d'autorité d'en faire jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce qu'ils produisent quelques temps auparavant déjà un rapport où ils avaient décidé d'évaluer les psychothérapies, et où ils avaient montré, avec une revue de la presse anglo-saxonne, que la psychanalyse n'était pas du tout efficace et que les thérapies cognitivo-comportementales étaient d'une efficacité absolument admirable. Donc, ce qui avait entraîné un mouvement chez les psychanalystes qui se bougeait à peu près jamais auparavant, et qui avait, et notamment de l'école de la cause freudienne, avec un effet médiatique assez important, avec des interventions autour de Jacques-Alain Miller, qui avait entraîné une mise à distance de ce rapport. par rapport au ministère. Tout ça. Donc là, pour revenir à cette pétition « Pas de zéro de conduite », en 2006, il y a une pétition qui a été lancée, qui en quelques mois a réuni 200 000 signatures, donc, où il dénonçait très clairement l'expertise de l'INSERM, qui médicalisait à l'extrême des phénomènes qui devraient être d'ordre éducatif, psychologique et social. Une expertise qui entretient la confusion entre le malaise social et la souffrance psychique, qui entretient la confusion entre le malaise social et voire la maladie héréditaire. Il faut remarquer la logique qui est à l'œuvre. Toutes les conduites dites anormales seraient considérées comme une déviance. Toutes les déviances seraient considérées comme une maladie. Et donc, tous les enfants atteints de cette nouvelle maladie sociale se verraient dirigés vers des programmes à visée rééducative, éventuellement complétés par des prescriptions de psychotropes. Parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un archaïsme français, c'est qu'on ne filait pas assez de psychotropes aux enfants. On leur fait beaucoup d'antibiotiques, pas assez de psychotropes, ce qui, en effet, pose question du point de vue scientifique. Enfin, pour des scientifiques dont le métier est de gagner de l'argent avec les laboratoires pharmaceutiques en particulier, mais bon. Donc, de fait, était dénoncée une alliance entre la mise en place d'un scientisme, parce que quand même, c'est quand même difficile de dire que des chercheurs sérieux étaient derrière ça, et un scientisme mis au service d'un contrôle social. Donc, apparaissait un déterminisme important, c'est-à-dire qui casse un œuf à 3 ans va voler un bœuf à 12 ans et attaquer... Et attaquer une vieille un peu plus tard. Voilà. Ce qui... Donc, on l'a fait remarquer qu'il y avait un retour à des choses qui avaient existé, dont plus personne n'avait osé parler depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la notion de criminel né, qui était à l'origine de la criminologie avec Lombroso, et surtout la notion de classe dangereuse, qui est une conception manifestement totalement à l'ordre du jour. Alors, dans cette pétition, il disait « Nous défendons, rien n'est définitivement joué dans l'histoire d'un être humain. » On est dans une époque où il faut réaffirmer des choses pareilles. Nous défendons les manifestations d'opposition, de désobéissance et de distance par rapport aux normes sociales ne sont pas en soi des signes de pathologie. Voilà. Donc ça casse quand même pas quatre pattes à un canard, mais voilà, c'est extrêmement subversif par rapport à l'ère du temps. Donc dans le livre, alors que un recueil d'articles sur fin 2006, pas de zéro de conduite, il y avait un article de Philippe Mérieux qui faisait remarquer que les sociétés contemporaines manifestent une fascination constante pour les classifications et les typologies caractérologiques. Or, ce qui caractérise les sociétés autoritaires, voire totalitaires du XXe siècle, c'est leur intérêt majeur pour ce phénomène et son instrumentalisation politique. Bon, alors, il y avait aussi des interventions de Roland Gori, des interventions de Laurent Mucchielli, qui soulignait qu'il était à l'œuvre un paradigme déterminisme, un biodéterminisme qui était ça. Donc un biodéterminisme dont je vous rappelle que ça avait été dit par Sarkozy pendant la campagne présidentielle, où il avait dit que dans un entretien qui passait dans Philosophie Magazine, où il avait dit que de par son expérience, il savait que c'était les troubles mentaux ou la pédophilie, c'était inné. Un garçon qui n'a pas besoin de grandes lectures scientifiques pour savoir dire des choses. Donc il y a eu une pétition. À la suite de cette pétition, l'INSERM a de fait fait une autocritique, a dit que ce n'était pas une bonne manière de faire, en effet, qu'il faudrait une sorte de jury citoyen. Elle a dit qu'il fallait que c'était une contribution au débat et qu'il faudrait dire des choses plus intéressantes, plus complexes. Donc cette pétition a quand même eu une efficacité assez importante. Elle a regroupé des professeurs de psychiatrie infanto-juvénile, des médecins de PMI, plein de personnes de la petite enfance, des psys en général. Donc ça a eu un écho médiatique, ça a réellement mobilisé des professionnels, ça a réellement eu une certaine efficacité. Bon, je voudrais juste conclure pour dire comment a pu être instrumentalisé ce rapport. Donc il y avait une proposition, en citant le syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale. Donc le syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, il faut savoir qu'il est, il a trouvé ce rapport très intéressant. Il importait de repérer l'enfant problématique, de proposer une prise en charge éducative, qu'il fallait développer des interventions auprès des parents pour développer leur habileté éducative. Donc les commissaires ont une conception de l'habileté éducative. Et donc il fallait une approche de prévention comportementale sur des cibles réduites, là on voit déjà plus le professionnel, et bien identifié, comme aux USA et au Canada. C'est fini. Donc maintenant, c'est uniquement les commissaires de police qui parlent. Et ils avaient cité les rapports...
Hein, vous parlez pas d'elle.
Non. Ils avaient cité le rapport de l'INSERM de septembre 2005, qui pourrait démontrer qu'un volant de 5 à 10% des jeunes de moins de 15 ans présentait des troubles de comportement très variés. Donc ils citaient crise de colère, désobéissance répétée, agressivité. Ces perturbations présentent un facteur important d'évolution vers une personnalité antisociale, dont la principale manifestation est la violence. Donc c'est toujours les commissaires. Ils écrivaient aussi, n'est-il pas curieux qu'aujourd'hui encore, des voix s'élèvent dans notre pays pour balayer d'un revers de main ce type d'expérience nouvelle, ce qui revient en ne faisant rien à laisser traiter in fine par les seuls services policiers et judiciaires des situations aggravées qu'une action éducative et psychosociale aurait pu éviter. Alors après, il y a aussi des déclarations de Nicolas Sarkozy en novembre 2005 et surtout devant l'Assemblée nationale en février 2006 qui quasiment reprennent mot à mot les paroles des syndicats des commissaires de police. Je vous remercie.
Merci, Pascal.